J'ai voulu m'intéresser aujourd'hui à ce détail curieux de l'histoire biblique, qui est que Jésus entre dans Jérusalem assis sur un âne. C'est vrai que c'est assez curieux parce qu'un âne, ce n'est pas franchement la monture sur laquelle aujourd'hui on aurait envie de monter pour paraître royal. Alors on a dit parfois que c'était un signe d'humilité, justement, Jésus qui assume finalement la honte pour un roi d'être assis sur une monture très humble. En fait, il ne semble pas du tout que cela soit ainsi. Parce que autrefois, l'âne n'était pas une monture humble et les rois se promenaient très facilement assis sur des ânes. Simplement, il y avait une particularité qui est qu'un roi s'asseyait sur un cheval quand il allait faire la guerre et il s'asseyait sur un âne quand il allait faire des activités pacifiques. Et donc Jésus qui entre dans Jérusalem assis sur un âne, cela veut dire qu'il est bien le roi que l'on attend et que l'on célèbre, mais c'est un roi de paix. Il ne vient pas là pour imposer quelque chose par la force et la violence, mais il vient dans la douceur, dans la tendresse et dans la paix. Et en même temps, je trouve que le fait que Jésus soit entré dans Jérusalem assis sur un âne nous en dit bien plus que cela. Ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on enseigne aux enfants au catéchisme l'après-midi. Bon, c'est déjà pas mal, mais je pense que nous pouvons aller plus loin. Parce qu'il est évident que Jésus, là, fait un chemin qui le regarde, mais ce chemin nous regarde aussi, dans la mesure où nous sommes appelés à suivre le Christ. Jésus est le chemin, et il dit aussi « Quiconque ne porte sa croix et me suit n'est pas digne d'hériter le royaume ». Et donc nous devons suivre Jésus sur ce chemin. Cela veut dire que nous ne sommes pas simplement appelés à regarder Jésus qui entre dans Jérusalem avec son âne, mais la Bible nous dit, nous devons, chacun de nous, monter sur notre âne et entrer à Jérusalem. Comment allons-nous nous y prendre pour cela? Jérusalem, je sais ce que cela peut vouloir dire. Jérusalem, dans toute la Bible, représente le lieu même où il y avait le temple, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu. Jérusalem, c'est Dieu, c'est la foi, c'est la prière, c'est toutes ces dimensions de la mystique, en quelque sorte. Et donc voilà, première chose, oui, nous sommes invités à cheminer pour nous rapprocher de Dieu et à faire un chemin qui nous amène vers le lieu de la rencontre avec Dieu qui est le temple. Ce chemin vers Jérusalem, c'est le chemin de toute quête spirituelle, c'est le chemin de la foi, parce que la foi, ça n'est pas quelque chose que l'on a en se disant « c'est bien, j'ai la foi, j'en profite, j'ai plus d'efforts à faire ». La foi, c'est un chemin, c'est justement d'aller se rapprocher de Dieu. Et première chose que l'on nous enseigne ainsi, ce chemin pour aller vers Dieu, c'est un chemin qui doit se faire au pas d'un âne. Et un âne, on a beau dire… Eh bien, c'est pas le cheval de Zorro, quoi. C'est pas Tornado. C'est pas le TGV. L'âne, c'est un animal qui va lentement, qui prend son temps et qui avance doucement. Et je pense effectivement que c'est un petit peu comme ça. Notre cheminement dans la foi, c'est un cheminement qui doit se faire tranquillement, en douceur. On n'est pas parachuté brutalement dans la foi, parachuté brutalement. Catapulté dans la présence de Dieu, il faut aller effectivement avec une certaine constance et une certaine tranquillité. La conversion à Dieu n'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est un lent trajet et il faut donc, je dirais, continuer ce chemin doucement, assis sur un âne, sans éclat, sans brutalité, sans violence, sans force, en douceur, en toute paix, simplement laisser travailler en soi cette espèce de cheminement long et pacifique qui peut nous aider à nous rapprocher même de Dieu. Ça aussi, c'est pas mal. Je crois que c'est assez vrai. Et en même temps, nous restons quand même là un petit peu dans la petite leçon de morale, une petite leçon un peu pratique. Or, en réfléchissant sur l'âne, justement, dans la tradition chrétienne, on peut être surpris d'une chose, c'est que cet âne a une importance considérable, que n'explique pas les quelques paroles édifiantes que je viens de vous servir. Et cela, on le voit dans plusieurs choses. D'abord, dans les je dirais, dans les tout débuts du christianisme. On trouve, par exemple, un graffiti à Rome qui a été découvert au XIXe siècle, où l'on voit quelqu'un qui adore un personnage qui est crucifié sur une croix, et ce personnage sur la croix, c'est un âne. Et ça, c'est un dessin que l'on connaît bien aujourd'hui, qui est assez curieux. Pourquoi est-ce que l'on montre ainsi ce personnage qui est en train, Alexamène, il s'appelle, qui est en train d'adorer un âne sur une croix, et il y a écrit en dessous « Alexamène adore son Dieu ». On a dit parfois que c'était une sorte de dérision, des antichrétiens qui disaient « Vous voyez, il adore un imbécile, finalement ». Parce que l'âne, c'est pas franchement l'image de l'intelligence et de la vivacité d'esprit. Mais en fait, je ne crois pas que cela soit par dérision. Et même les chrétiens, semble-t-il, disent les historiens, les chrétiens étaient appelés à Rome les asinari, c'est-à-dire les adorateurs de l'âne. Là aussi, on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette histoire d'âne? Ça commence à faire beaucoup. Alors on pourrait dire, bon, c'était lié à l'histoire de Rome et des premiers chrétiens. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on trouve des tas de témoignages dans l'histoire chrétienne qui nous montrent cette importance de l'âne. On a trouvé en Syrie des terres cuites qui représentent Jésus avec des oreilles d'âne portant les évangiles sous le bras. On a trouvé aussi dans l'art roman où l'on voit des ânes effectivement déguisés en évêques ou déguisés en prêtres. Il y en a un à Saint-Brioude, il y en a un à Saint-Benoît-sur-Loire, il y en a aussi dans les cathédrales de Nantes, de Bourges et de Chartres, où l'on voit à chaque fois des ânes ou des chrétiens adorant des ânes ou des ânes qui portent l'évangile, où l'on voit effectivement un petit peu tout cela. Et ça, c'est assez curieux, à un tel point que ça a été incompris pendant longtemps, et au XIXe siècle, on a trouvé cela tellement scandaleux qu'un certain nombre de ces statues médiévales ont été démontées. C'est le cas à Strasbourg, où je crois qu'il y avait, enfin je crois, non, je sais, qu'il y avait autrefois une statue représentant un prêtre avec une tête d'âne tenant un évangéliaire. Et là, ça a été enlevé parce qu'on trouvait que c'était insultant pour l'âne. On en trouve encore un, je crois, dans une église romane à Aulnay de Saintonge, où on voit, paraît-il, un âne disant la messe. Alors ça, c'est finalement assez curieux, et je vais essayer de vous dire ce que j'en pense. C'est que, en fait, je pense que c'était tout à fait assumé, cette histoire-là. C'était pas du tout une dérision. C'était tout à fait assumé, et pour comprendre pourquoi les chrétiens, comme ça, au Moyen-Âge, ont, je dirais, adoré l'âne comme une image même du Christ, c'est qu'effectivement, il y a dans cet animal quelque chose qui nous donne un enseignement assez fort sur le Christ lui-même. À un tel point qu'il y avait au Moyen-Âge, dans les églises, ou tout au moins dans toutes les grandes cathédrales, une fois par an, une fête de l'âne. C'était, je crois, au moment du solstice d'hiver, et on en a un récit assez touchant par Pierre de Corbeil, qui était archevêque de Sens aux alentours de 1200, donc entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et cette fête de l'âne était très curieuse, il faut que je vous raconte comment ça se passait, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'oserait pas faire cela dans nos cathédrales, ni même dans nos temples. Eh bien, ce jour-là, lors de la grand-messe, eh bien, on faisait entrer un âne, solennellement, dans la cathédrale, et qui était revêtu d'un manteau d'or. Et il avait une grande traîne qui était tenue par quatre des membres les plus éminents du clergé du chapitre. Ensuite, l'âne entrait dans l'église, donc il se tenait dans le chœur, juste à côté de l'évangile. Et ensuite, on célébrait toute la grand-messe en son honneur. Alors, il y avait des répons, comme c'est encore aujourd'hui le cas, après l'introït, le kyrie et le credo. Et au lieu que la foule réponde « Amen » ou « Avec ton esprit » ou je ne sais quoi, comme on le fait aujourd'hui, la foule répondait « Ian ». Et donc, on remplaçait tous les « Amen » de la messe par « Ian », ce qui est assez curieux. Et la messe se terminait en effet ainsi. Le prêtre disait « Deo gratias ite missa est iam » et toute la foule dans la cathédrale disait trois fois « Iam, iam, iam ». Alors aujourd'hui, l'Église catholique romaine est très gênée pour expliquer ce genre de choses. Et parfois, elle dit « Bon, ben, c'était... vous savez, c'est comme dans les camps scouts, on fait une journée, parfois on fait une journée à l'envers où c'est les chefs qui font les petits et les petits qui font les chefs, c'est-à-dire une sorte de plaisir de renverser finalement l'ordre social. » Je crois que c'est évidemment, sous-estimer l'importance de la symbolique dans la mystique du Moyen-Âge. Et il faut comprendre que, à mon avis, c'est beaucoup plus que cela. Parce que je reviens à cet âne des rameaux, l'âne qui est celui qui porte le Christ. Eh bien, tout à l'heure, je disais que nous devions, comme Jésus, marcher sur l'âne, mais d'une certaine manière, nous devons aussi être celui qui porte le Christ. Et donc, nous devons nous assimiler à l'âne, parce qu'il y a dans l'âne un certain nombre de qualités absolument extraordinaires que nous pouvons ou que nous devons imiter. Je vais vous expliquer. D'abord, il est bien connu que l'âne, si vous en voyez, a une croix sur le dos. Bon, c'est vrai, je crois. Certains chevaux aussi, d'ailleurs. Et donc, on a dit, voilà, l'âne est préprogrammé pour porter le Christ. Ensuite, l'âne, on le voit partout. Il est au moment de la naissance de Jésus. Il souffle sur le petit Jésus pour le réchauffer. L'âne, il est encore quand il fuit en Égypte. Et on le retrouve encore ici, à la fin de sa vie. Mais surtout, l'âne est l'image même du bon chrétien. Et cela, pour les raisons suivantes. C'est qu'il a des grandes oreilles. Et les grandes oreilles, c'est très bien pour écouter. Et effectivement, le chrétien, c'est quelqu'un qui sait écouter. Et ça, c'est important parce que écouter, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, se mettre à l'écoute des autres. Écouter, c'est accepter de se laisser transformer par un message. Et je crois que justement, le bon chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur une sorte de certitude qui fait en lui une forteresse et qui fait qu'il n'écoute plus rien, mais qu'il ne deviendrait plus que, comme certains sectaires, des sortes de moulins à essayer d'évangéliser, pour parler et pour convaincre. Les chrétiens, c'est celui qui commence par écouter, par entendre, recevoir, accueillir. Et c'est là certainement l'une de ses plus grandes qualités, qui est de savoir écouter. Après, l'âne a encore autre chose, c'est que vous me direz, il écoute, c'est vrai, mais quand il parle, eh bien, c'est pas extraordinaire. L'âne a effectivement un braiement qui est extrêmement discordant et qui n'est pas très agréable à entendre. Et là encore, les chrétiens se sont reconnus, à tort ou à raison, dans cet âne qui braie. C'est-à-dire, dans cette espèce de parole qui est finalement rejetée par le monde, une parole qui est discordante, mais une parole qui, justement, s'entend et dénote. Et je pense que, la parole du chrétien dans le monde, peut-être parfois un doux gazouillis d'oiseaux auquel on ne prête pas attention, mais la parole du chrétien dans le monde peut être comme une sorte de braiement incongru qui dérange les gens et qui se fait entendre. Mais c'est la même chose pour le prédicateur. Je peux vous servir des sermons à l'eau de rose pendant des heures, si vous voulez, en vous parlant de la grâce, de la miséricorde, de l'amour et du pardon. Mais si je fais ça, vous direz, c'est très bien, mais personne ne revient. Parce que cette espèce de discours sirupeux dont on a fait trop souvent l'évangile, simplement n'a plus rien à dire au monde. Si c'est pour dire des évidences et des banalités, alors que dit l'évangile? Eh bien, le chrétien doit avoir le courage justement d'entendre une parole qui est une parole percutante et une parole qui finalement dérange et qui a quelque chose qui s'entend et qui n'est pas, je dirais, comme tout le reste que l'on peut entendre. Et d'autre part, cet âne encore, les chrétiens se sont reconnus dedans parce que peut-être justement il est mal considéré. Et l'âne, on dit, il est bête, voilà. L'âne, c'est celui que l'on exclut. Quand un élève ne fait pas bien ce qu'il faut à l'école, je crois que ça ne se fait plus quand même, on le mettait dans le coin avec un bonnet d'âne. Moi, je ne l'ai pas connu, peut-être les plus anciens d'entre vous, oui, je ne sais pas. On le mettait dans un coin avec un bonnet d'âne pour dire, lui, il n'est pas comme tout le monde. On le met à l'écart. Et il y a eu là tout un mouvement intellectuel, je dirais au Moyen-Âge, pour dire, eh bien, voyez-vous, celui qui n'a peut-être pas les qualités nécessaires pour se couler dans le moule et être comme tout le monde, d'une certaine façon, il a une singularité et peut-être même une sagesse qui n'est pas reconnue là par l'institution scolaire, mais qui peut être quelque chose de remarquable. Parce qu'en effet, il est certain que dès le moment que l'on suit l'Évangile, dès le moment que l'on veut avoir une parole prophétique, eh bien, il se passe quelque chose d'absolument inévitable, c'est que, en fin de compte, les autres l'entendent mal, ou ne le comprennent pas, voire le mettent à l'écart. C'est ce qui passait de Jésus, pour Jésus. Jésus, sur la croix, se retrouve comme l'élève avec son bonnet d'âne, c'est-à-dire tout le monde dit « il nous embête, il dit n'importe quoi, il déraille », et donc on l'écarte en disant « c'est un fou, c'est un idiot, c'est un imbécile, il déraisonne en quelque sorte ». Mais méfions-nous, parfois, il y a dans la déraison, dans la folie, quelque chose de grand et de beau. Et c'est pourquoi je vous ai lu ce beau passage de 1 Corinthiens 11, 1, versets 17 à 31, qui justement nous dit, vous savez, le monde ici, ce qu'il cherche, c'est des paroles de sagesse, des paroles mesurées, des paroles raisonnables, des bons petits conseils moraux. Mais, dit-il, nous ne sommes pas venus avec des gentilles petites paroles bien morales et bien mesurées. Nous sommes venus vous prêcher la folie de la croix. Et la folie de la croix, parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Eh bien, ça, c'est le message de l'âne, justement. Celui qui est rejeté par tout le monde, il a une certaine folie qui est peut-être là la sagesse de Dieu. Et le chrétien doit avoir cette espèce de courage de paraître fou pour les autres, de paraître un âne pour les autres, de paraître un imbécile, d'être incompris, d'être considéré comme discordant. Je pense que, effectivement, toute parole prophétique est nécessairement incomprise par le monde. Toute parole prophétique, forcément, suscite la réaction du monde dans lequel on se trouve. Maintenant, je mettrai une nuance quand même en disant que ce n'est pas parce qu'on est rejeté par le monde qu'on est nécessairement dans le cadre d'une parole vraie. C'est-à-dire que le fait d'être rejeté, critiqué ou je ne sais quoi par le monde ne veut pas dire que ce soit la preuve que ce que l'on dit est grand, beau et intelligent. Mais néanmoins, il est certain que si l'on dit une parole prophétique dans ce monde, on est forcément critiqué. Et il est certain aussi que si l'on n'est pas critiqué, c'est que peut-être on n'a pas su avoir dans ce monde une parole forte. À partir de là, il faut, comme l'âne, je dirais, être têtu. L'âne aussi, il est formidable, parce qu'il est têtu, l'âne. L'âne, il va là où il veut aller, et s'il n'a pas envie d'avancer, vous pouvez toujours lui taper dessus, il n'avancera pas. C'est pour ça que je préfère monter sur des chevaux que sur des ânes, d'ailleurs, mais je pense que, pour le chrétien, c'est très bien de ce côté-là d'être un âne. Parce que l'âne, c'est quelqu'un de têtu. Et même si on lui dit « tu ne fais pas ça », et qu'il pense, lui, qu'il a des raisons majeures, fondamentales, essentielles, de l'ordre, de l'amour, de le faire, eh bien, il le fera quand même. Il a une sorte de conviction, une sorte de foi qui lui permet d'avancer dans ce monde, j'allais dire comme un bulldozer, qui ne se préoccupe pas des opinions des autres, des railleries des autres, des quolibets, qui ne se préoccupe pas non plus du désaccord ou du sentiment du ridicule. Il y croit, il y va et il avance. Il avance pas vite, mais il avance sans que rien ne lui permette de se détourner de là où il voulait aller. Donc il est certain que l'âne, voyez-vous, a un certain courage et que nous sommes invités à avancer dans ce monde, je dirais comme des ânes, non pas comme des imbéciles bien sûr, parce que je crois entre nous que moi-même, bien que n'aimant pas tellement les ânes, je crois que les ânes, dans le fond, sont plus intelligents que les chevaux, et que c'est pour ça qu'ils sont plus difficiles à monter. Et donc l'âne, c'est pas du tout un idiot ou un imbécile. L'âne, c'est plutôt le fou et l'incompris. Et nous sommes donc invités à avancer avec courage, avec résolution, à avancer avec, je dirais, d'une façon opiniâtre, et patience, à petits pas, dans une bonne direction, sans avoir peur de paraître fou pour le monde des hommes, sans avoir peur d'émettre au milieu des hommes le son discordant de ce hiant qui choque les oreilles. Oui, nous sommes invités à être des ânes pour labourer les vignes du Seigneur. Et ainsi, nous pouvons avancer vers Dieu avec douceur, constance et paix. Nous sommes invités à avancer tout en continuant de savoir toujours écouter, d'avancer en sachant que celui qui est méprisé par les hommes peut-être est le premier pour Dieu, comme l'a été le Christ, avec le courage d'être différent, de donner de la discordance dans ce monde, de témoigner, de faire entendre sa voix, d'être fou parmi ceux qui se croient sages. Et comme je reste un petit peu sage, je ne conclurai pas en disant « Yan », mais je dirai quand même « Amen ».